Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Acclamons la parole de Dieu.
Nous entendons donc cette page d'évangile où Jésus appelle les 12. Et dans la première lecture, celle de l'Exode, nous avons entendu Dieu qui appelait Moïse sur la montagne pour lui donner dans les temps qui allaient venir la Torah, c'est-à-dire les 10 commandements. Et donc Jésus, Dieu, quand il veut quelqu'un avec lui, il l'appelle. Et quand il appelle Moïse, il appelle un homme pour que cet homme devienne porte-parole d'un peuple et que ce peuple devienne ce qu'on appellera plus tard « lumière des nations ». Ce qui veut dire que l'appel de Dieu n'est jamais quelque chose qui peut rendre jaloux les autres. Parce qu'on n'est jamais appelé pour soi, on est appelé pour les autres. Et si un jour, dans sa propre vocation, quelle qu'elle soit, on ne raisonne que par rapport à soi, on est forcément en échec par rapport à notre mission. Israël n'a pas été appelé au détriment des autres peuples, mais au bénéfice de tous les peuples. C'est d'ailleurs ce que dit Dieu dans cette parole. Vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Et donc, Dieu va confier à ce peuple, parce qu'il va confier d'abord en amont à Moïse, deux missions. « Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance. » La mission de ceux qui sont appelés, ça consiste à écouter la voix du Seigneur. C'est exactement ce qu'on nous dit quand on écoute la parole de Dieu, quand on acclame la parole de Dieu, quand on réfléchit dans des groupes la parole de Dieu, on écoute la voix du Seigneur. Et puis la deuxième mission, c'est garder mon alliance. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est élu, choisi de Dieu, il y a une alliance qui se passe entre lui et un peuple, et dans ce peuple avec des personnes, et que cette alliance, elle amène un choix de vie, des commandements, une façon d'être. Quand on est chrétien, il y a des choses qu'on fait parce qu'on est chrétien, et puis il y a des choses qu'on ne fait pas aussi parce qu'on est chrétien. Donc on regarde on reçoit cette vocation. Et encore une fois, quand je parle de vocation, d'appel, je parle de l'appel baptismal pour l'Église. Ce n'est pas l'appel sacerdotal ou diaconal ou monastique. Dans l'Évangile, on entend donc d'abord cet appel de Jésus sur les 12. Et il va leur dire « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. » Donc les païens, ce sont tous les peuples de la terre, sauf Israël, les goïms, et puis les Samaritains, c'est un peuple qui habite, comme son nom l'indique, au nord de Jérusalem, dans la Samarie, et qui sont devenus les frères ennemis des Juifs, alors qu'ils étaient leurs frères avant, pour des raisons justement d'écoute de l'Écriture sainte et de sens donné à cette parole. Donc Jésus passe d'un homme seul, lui, qui annonce la parole de Dieu, à un peuple, c'est-à-dire à une communauté, qui, elle, va devoir annoncer le peuple à ceux qui sont avec lui, Israël. Parce que Dieu a besoin, même avec Jésus, que le peuple auquel il parle, nous, aujourd'hui, nous soyons nous-mêmes en situation de recevoir la parole. Les premiers à convertir, ce sont les chrétiens, qui ne sont pas assez chrétiens pour donner envie à des païens de devenir des chrétiens. Et ce mouvement nous étonne tous de voir combien des non-chrétiens, voire des gens qui sont d'autres religions, aujourd'hui rejoignent l'appel de l'Église alors qu'ils ne sont pas chrétiens. En fait, il y a deux temps. Il y a le temps où Israël doit accueillir l'Évangile de Jésus et Jésus. Et ensuite, il y aura un second temps qui sera le temps des païens, avec Pierre, Paul et tous les autres, qui vont eux-mêmes aller vers les Romains, vers les Grecs, pour leur parler de l'Évangile. Et nous sommes encore dans ce temps aujourd'hui. Donc Jésus leur demande d'aller simplement dans les lieux où il y a des brebis sans berger. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion pour les foules. La compassion, ce n'est pas la gentillesse, ce n'est même pas l'altruisme. La compassion, c'est d'être remué dans ses entrailles en voyant un peuple qui se dit être le peuple de l'Alliance et qui ne reçoit pas la visite du berger, Jésus. Et donc, Jésus tremble dans ses entrailles de fils, et donc il tremble, le Père, dans ses entrailles de Père, parce que la foule est sans berger. Je trouve qu'il y a une connexion à faire avec notre monde où il y a tellement peu de repères qu'il n'y a plus de pères ou moins de pères et en tout cas pas de bergers, en tout cas pas de bons bergers. Et c'est aussi probablement pour ça que notre monde est désemparé et abattu parce que la verticalité a beaucoup disparu du monde horizontal. Il envoie donc ses disciples qu'il appelle chacun par son nom. Ça veut dire que quand Dieu appelle un peuple, il appelle d'abord des personnes. Et ces personnes, vous aurez remarqué comme moi que la première, c'est Pierre, et la dernière, c'est Judas. C'est-à-dire que le peuple de ceux que Dieu choisit sont encadrés par deux fragiles et deux personnes qui vivront tous les deux l'humiliation de l'infidélité et de la trahison. L'un sera récupéré par Jésus, Pierre, en lui redonnant un esprit de compassion, en ayant une compassion pour ce pauvre Pierre, alors qu'il l'a trahi le vendredi saint. Et l'autre n'aura pas confiance dans la miséricorde du Père, il n'aura pas confiance dans la miséricorde du Fils, et il va se suicider, il va se pendre à sa culpabilité. La compassion nous fait aimer l'autre, d'une manière qui n'est pas simplement émotive ou émotionnelle, mais qui est divine. Ce sont les entrailles que Dieu a créées qui doivent être touchées. Et il donne au moins deux ou trois missions à ses apôtres. La première, c'est de prier. La moisson est abondante, donc il y a du boulot. Les ouvriers sont peu nombreux. Priez. Priez pour que le maître de la moisson envoie d'autres ouvriers dans la moisson. Donc, il y a des bras qui manquent et Jésus demande la prière. Parce que la prière nous fait vivre la mission à partir de Dieu et non pas à partir d'un plan humain. À partir d'un don de notre temps et de notre humanité, qu'on appelle, un don qu'on a, de temps qu'on appelle la prière, pour que nous puissions exister devant le mystère de Dieu avant d'exister devant le mystère de notre appel. Et donc, cette prière, elle est d'abord nécessaire pour que nous puissions partir en mission en nous disant que l'extraordinaire que Dieu nous demande de faire, d'abord, il est pour des gens ordinaires, et ensuite, il n'est réalisable que si on prie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette difficulté, ou ce questionnement au moins, pourquoi si Jésus envoie ressusciter des morts et guérir des lépreux et des gens malades, l'Église aujourd'hui ne guérit plus et ne ressuscite plus les morts? Ou pourquoi est-ce si peu visible? Est-ce que nous avons encore la foi? Alors ces deux questions, pour moi, elles posent la question du sens de la guérison. Il y a des guérisons physiques, et puis il y a aussi, et ça peut s'appeler des miracles, et il n'y en a pas qu'à Lourdes, il y en a qui se passent dans nos églises, par des groupes de prières, des prières des frères, des prières de délivrance, des prières de guérison. Et c'est des vraies guérisons physiques, mais ça n'est pas le mode normal par lequel Dieu ou Jésus veut gouverner son Église. Sinon, il le ferait. S'il ne le fait pas, en ne guérissant pas comme ça, si simplement comme il le faisait faire par ses apôtres, c'est que nous sommes entrés dans un autre temps, ou peut-être parce que nous ne prions pas assez. Et la deuxième chose que Jésus demande à ses disciples, c'est de ressusciter les morts. Il n'y a pas beaucoup de saints qui ont ressuscité des morts, mais je pense qu'on est dans un pari, dans une société où il y a beaucoup de morts spirituellement. Et que notre rôle à nous, Église, c'est de ressusciter les morts spirituellement. Et de ne pas les ressusciter d'une autre manière qu'en annonçant la résurrection de Jésus, en vivant d'une manière qui montre qu'on n'a pas tout son bénéfice par le fruit de son travail, mais qu'on l'a aussi par le fruit de notre vie spirituelle, et en annonçant ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire que nous sommes destinés à une vie dès le temps de la terre qui n'est pas totalement uniquement terrestre. Et donc là, c'est peut-être ce qui se passe dans ce mouvement catéchuménal qui touche énormément de gens dans notre pays, et c'est singulier parce que ça ne touche pas d'autres pays européens, et nous sommes, nous, en train tous de réfléchir pourquoi la France aujourd'hui vit ça. Et donc, nous sommes un temps de réveil spirituel. Et que notre Église garde bien ses deux missions, guérir et ressusciter les morts. Mais pour cela, il faut que nous continuions à croire que nous sommes des appelés par Dieu, par Jésus, et que nous sommes appelés à le faire dans la prière. Amen.